Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous nous écoutez en podcast. Lundi 27 janvier, une des voix de ce que l'on a appelé la révolution de Jasmin s'est tue. L'emblématique blogueuse tunisienne Lina Benmeni est morte à l'âge de 36 ans. Pendant des années, sur son blog A Tunisian Girl, elle a témoigné des injustices vécues par la population de son pays. Son combat avait débuté bien avant la chute de Ben Ali. Il s'est poursuivi jusqu'à un dernier billet de blog publié la veille de sa disparition des suites d'une longue maladie. Mardi, des centaines de personnes ont assisté aux funérailles de Lina Benmeni et, fait rarissime dans un cimetière musulman, ce sont des femmes qui ont porté son cercueil recouvert du drapeau tunisien. Je vous propose d'écouter un extrait d'une interview de Lina Benmeni diffusée dans l'Atelier des médias en février 2011.
Il n'y avait pas d'autre moyen. L'internet était vraiment, la plupart des internautes ont joué le rôle des journalistes. Comme les médias officiels, télévision, radio et tout, n'en parlaient pas parce qu'ils sont soit étatiques, soit ils appartiennent aux proches du président. Donc voilà, ils cachaient ça. Donc c'est l'internet qui a permis que l'information passe et se diffuse un peu partout.
C'était la blogueuse tunisienne Lina Benmeni qui vient de mourir. Elle était au micro d'Edith Bouvier le 20 janvier 2011, quelques jours à peine après le départ de Ben Ali en Tunisie.
L'Atelier des médias, tous les samedis sur RFI.
Je vais maintenant recevoir quelqu'un que je suis ravi d'avoir en studio parce qu'on avait du mal depuis plusieurs mois à faire s'accorder nos agendas. Bonjour Jean-Baptiste Kempf.
Bonjour.
Bienvenue dans l'Atelier des médias de RFI. Vous êtes le président de l'association Vidéolan et développeur principal du logiciel VLC. Alors vous qui nous écoutez, ça vous parlera sans doute plus si je vous dis que c'est ce logiciel dont l'icône est un cône de chantier orange que vous avez sur votre ordinateur peut-être ou sur votre smartphone. Pour situer VLC, Jean-Baptiste Kempf, qu'est-ce que c'est ?
VLC, c'est un logiciel qui permet de lire tout type de vidéos, tout type de médias, du streaming, des fichiers, des CD, des DVD, mais surtout c'est un logiciel qui est open source et qui est libre.
Depuis toujours ?
Depuis toujours. C'est un projet qui est en fait un résultat d'un projet étudiant et les étudiants à l'époque de l'école Centrale Paris avaient comme but de le diffuser au plus grand nombre.
Alors ça a été lancé, la première mise en ligne de VLC tombe, eh bien c'est d'ailleurs un jour anniversaire, c'est le 1er février 2001, c'est bien ça ?
Alors effectivement, en fait le projet Vidéolan qui a donné VLC, en fait c'est un projet qui commence en 95, dont le but était de faire une solution juste pour les étudiants. Et en fait, ils se rendent compte que ça pourrait être utile à d'autres personnes. Et donc, en fin 99, ils relancent le projet. Mais en fait, c'est pas un logiciel ouvert. C'est un logiciel que pour les étudiants. Et en fait, ils se mettent à demander à l'école de le rendre open source. Et ils le mettent en open source le 1er février 2001.
Alors, ce logiciel, à la base, c'est un projet étudiant, mais c'est pas un projet de travail étudiant.
VLC, c'est un projet à l'origine où les étudiants avaient besoin d'un nouveau réseau. Notamment pour jouer aux jeux vidéo à l'époque. Ils ne trouvaient pas de raison d'avoir un nouveau réseau. Et donc, ils se sont dit, on va diffuser de la télévision directement sur le réseau étudiant. Et ben, pour faire ça, on aura besoin de beaucoup de débit. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé des partenaires pour construire le nouveau réseau. Et VLC, c'était l'excuse en fait, pour créer le nouveau réseau. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Alors, cette icône, ce cône de chantier orange, justement, l'histoire est peu banale là aussi.
Donc, évidemment, l'histoire du cône de chantier, c'est complètement bizarre pour un lecteur vidéo et audio, en fait, d'avoir un cône de chantier. Normalement, tu prends une icône, un bouton play, hein, tu regardes YouTube, c'est toujours la même idée, soit une jaquette de film, soit une pellicule. Un cône de chantier, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je me déplace en Inde, en Indonésie, ou quand je parle de VLC, quand j'étais la dernière fois en Bolivie, les gens, ils disent, non, VLC, je connais pas. Mais si, le cône de chantier qui lit des vidéos. Ah ouais. Et en fait, c'est tellement reconnaissable que c'est génial comme remarque. Et à l'origine, évidemment, c'est une blague étudiant avec une blague en fait qui est restée. En fait, il y a plein de petites blagues dans VLC qui sont restées. Et puis, ben, en fait, c'est devenu tellement populaire qu'on peut plus changer.
Et c'est un projet français.
Alors moi, c'est ce que je dis. VLC, c'est le logiciel français le plus utilisé au monde.
Alors, une idée d'ailleurs du nombre de téléchargements maintenant.
En nombre de téléchargements, sur notre site, on est à 3 milliards 3, mais il y a plein de gens qui le téléchargent depuis d'autres sites, télécharger.fr, download.com ou plein d'autres. Comme c'est un logiciel libre et gratuit, les gens peuvent le rediffuser. Donc on peut penser 4-5 milliards de téléchargements. Et En nombre d'utilisateurs actifs, c'est peut-être 500 millions.
Ce qui est énorme.
C'est énorme.
Et ces utilisateurs actifs sont principalement français ou...
Absolument pas. Pour moi, la France... Enfin, c'est pas que la France, ça existe pas, mais c'est peut-être 2-3% des utilisateurs de VLC. J'ai beaucoup d'utilisateurs. Donc, à peu près la moitié des utilisateurs, c'est l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Et ensuite, partout dans le monde. On a beaucoup d'utilisateurs en Afrique, on a beaucoup d'utilisateurs en Amérique du Sud. L'endroit où on est vraiment absent, c'est la Chine.
Pourquoi ?
Je sais pas. En vrai, en fait, c'est juste que le marché chinois doit être différent et on le connaît pas. Il y a une barrière de langue et notamment une barrière de sous-titres. Et donc, on est assez peu présent en Chine.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que VLC est un logiciel libre, vous l'avez dit, mais également que vous ne traquez pas vos utilisateurs à l'heure où sur Internet, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, traquent tout. Et vous, bien, vous nous donnez des chiffres de téléchargement, des estimations de la provenance géographique de vos utilisateurs, mais vous n'utilisez pas la télémétrie, donc vous ne pouvez pas nous dire très concrètement qui sont ces utilisateurs, où ils sont, combien de temps ils utilisent ce logiciel chaque jour peut-être, etc., etc.
Alors la télémétrie, ça s'appelle de l'espionnage. On peut essayer de le dire, c'est comme les gens qui parlent de vidéoprotection au lieu de vidéosurveillance, c'est de l'espionnage. On peut décider que c'est nécessaire, etc. Nous, on ne pense pas. Les seules métriques qu'on a, c'est les gens qui viennent sur notre site web pour télécharger. Et encore, c'est des métriques qu'on utilise assez peu. Donc non, pas d'espionnage, pas de tracking, on ne sait pas ce que vous regardez. Et en particulier, ça ne nous intéresse pas. Parce que les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. VLC, c'est un outil. Il y a des gens qui font des trucs géniaux avec VLC. Il y a des gens qui font des trucs qui sont horribles avec VLC. C'est pas notre problème.
Les données, pourtant, c'est data d'utilisateurs, c'est de l'argent. Mais VLC, derrière VLC, il y a le projet Vidéolan, qui est une association, loi 1901, en France. Ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle économique ?
Non, il n'y a pas d'argent. L'association, elle n'emploie personne. L'association, la seule rentrée d'argent, c'est grosso modo les sponsoring pour la conférence qu'on organise tous les ans et les dons sur le site web à travers PayPal et les gens qui envoient de l'argent directement sur le compte bancaire parce qu'on a notre IBAN en ligne. Et sinon, on reçoit des bitcoins. Voilà. Mais non, l'asso, le fonctionnement de l'asso, on parle de peut-être 50, 60 000 euros par an, donc même pas de quoi embaucher un ingénieur. Mais ça nous permet de faire tourner les serveurs et on a pas mal de frais, notamment de matériel.
Il y a combien de personnes derrière Vidéolan ?
J'ai pas la réponse.
Alors, ça veut dire ?
Ça veut dire quoi ? En fait, Vidéolan, dans l'association, il y a une trentaine de personnes, mais Vidéolan ne fait pas que VLC, Vidéolan fait autre chose que VLC. Donc en fait, la question, elle est plutôt combien y a-t-il de gens qui bossent sur VLC ? Et la réponse encore, c'est ça dépend. La core team, les mordus qui font au moins plusieurs fois par semaine du VLC, c'est une dizaine de personnes. Mais chaque année, il y a 150 à 200 personnes qui contribuent. Donc on est vraiment une communauté avec des gens, et puis des gens qu'on ne voit jamais, qui sont à l'autre bout de la planète, qui sont en Syrie ou à Dakar et qui nous envoient des patchs.
Alors justement, en amont de cette émission, on a demandé aux abonnés du compte Twitter de l'Atelier des médias s'ils avaient des questions à vous poser. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait justement une grosse communauté d'utilisateurs qui suivent les évolutions techniques de VLC et que vous, votre équipe, répondez du tac au tac d'ailleurs.
Alors oui, donc en fait, il faut comprendre que les communautés open source, qui sont attachées notamment énormément aux libertés individuelles, elles fonctionnent de cette façon. On a le noyau, le corps, qui sont, dans le cas de VLC, d'une dizaine de personnes. Ensuite, on a les gens qui aident, qui sont peut-être une centaine de personnes par an dans VLC, mais qui aident à la fabrication. Et puis après, il y a le premier cercle de mordus, vraiment de gens qui sont férus de technologie, qui, dans le cas de VLC, ça va peut-être 10 000, 100 000 personnes. Et eux, ils regardent, ils font des tests, ils rapportent, ils contribuent au forum, et parfois, ils sont pas d'accord avec ce qu'on fait, et donc, ils le font savoir.
Alors, je parlais tout à l'heure de modèle économique. J'ai lu une interview de vous où vous dites que le vrai modèle que vous défendez, parce qu'il est utile à un très grand nombre de gens, c'est justement celui de l'open source. Dans un monde où pourtant il n'y a plus tant que ça de logiciels très largement utilisés qui sont open source.
Alors, c'est vrai, et surtout il y a un vrai problème, c'est qu'en fait les gens font pas la différence entre logiciels libres et open source et gratuits. Parce que Facebook finalement c'est gratuit, Google c'est gratuit, et pourtant c'est des boîtes qui font énormément d'argent, un peu contre votre gré. Ils expliquent pas vraiment ce qu'ils font. Ça s'appelle un peu une trahison. Si les gens savaient effectivement ce que faisaient Facebook et Google, ils utiliseraient pas. Mais en fait, pour comprendre ce qu'ils font, il faut avoir une compréhension technologique qui est vraiment importante. Nous, on n'aime pas ça. Et donc, on veut justement aider à ce qu'il y ait des outils qui permettent de lire des choses au plus grand nombre. Et en fait, la partie de lecture de médias, elle est critique. Parce que pour avoir une information de qualité, par exemple, il faut être capable de tout lire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important qu'on soit capable aujourd'hui de lire les vidéos d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Et dans 10 ans, on va être dans encore des choses encore plus fermées sur des smartphones où on peut faire de moins en moins de choses, d'être toujours capable de lire des archives, d'être capable de diffuser, parce que VLC c'est aussi c'est un outil qui permet de diffuser, c'est donc on peut diffuser et lire et échanger des informations, alors pas trop texte dans le cas de VLC, mais audio, vidéo, 3D, au plus grand nombre, sans que ça coûte quoi que ce soit.
Donc, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, vous parliez des formats, il y a de plus en plus de standards différents, en fait. Chaque entreprise apporte son propre standard. On se pose la question de savoir si le MP3 pour les flux podcasts va perdurer, par exemple. Et VLC est capable de lire tout et n'importe quoi, ou presque.
Il y a une blague qui dit que si jamais tu prends une crêpe et que tu la mets dans ton lecteur de CD sur ton PC, VLC va être capable de la lire. Alors non, mais par exemple, il y a des gens qui utilisent VLC pour réencoder, enfin numériser des VHS ou des Betamax. Et c'est vrai que c'est important qu'on soit capable de tout lire parce que c'est une liberté en fait qui va être nécessaire. Et en fait, c'est vrai que au jour le jour, on, même dans les médias et chez vos confrères, on est pris par la vie de tous les jours et des impératifs économiques qui font que en fait on l'oublie. Et puis c'est 5 ans ou 10 ans plus tard qu'on s'est rendu compte qu'en fait on s'est fait enfermer dans une plateforme des GAFAM et c'est trop tard pour revenir en arrière.
Et justement, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc., ils prennent contact avec vous avant de lancer certains outils, etc. C'est une relation proche ou au contraire, justement, vous regardez en chien de faïence?
Alors non, moi, en fait, je suis trop différent pour être un compétiteur de ces gens-là.
Mais il n'y a pas de hotline entre vous, je veux dire.
Ben en fait, si, moi, ça m'arrive notamment de travailler avec Microsoft et avec Apple et aussi un petit peu Google, notamment pour être vérifié que VLC fonctionne bien sous Windows, sous macOS. Mais c'est vraiment une interaction très technique pour que VLC fonctionne bien. J'ai aucun échange de contenu ni quoi que ce soit.
Mais l'idée pour vous, c'est de satisfaire toujours les utilisateurs de votre logiciel.
Le but numéro un, et ça me paraît vrai pour tout le monde, c'est de rendre tes utilisateurs heureux. Moi, j'aime pas trop toutes les techniques de un peu de menottes, que ce soit par des systèmes de brevets logiciels ou autre chose, parce que le but, si t'es bon, tu vas fonctionner. Et par exemple, VLC, on n'a jamais eu de marketing, et pourtant, c'est le logiciel français le plus utilisé au monde. Et d'ailleurs, même hors logiciel français, je pense que au niveau, c'est peut-être un des logiciels européens les plus utilisés au monde. Il y a peut-être Spotify et VLC, et c'est tout au niveau européen comme logiciel très utilisé. Donc c'est assez important en fait d'être capable de répondre à tes utilisateurs parce que c'est en écoutant tes utilisateurs qu'ils vont t'utiliser.
Jean-Baptiste Kempf, derrière le logiciel VLC, on va faire une petite séquence questions courtes, réponses courtes. Quel est votre logiciel de lecture de vidéos préféré ?
VLC.
Qu'est-ce que la vraie French Tech ?
C'est les gens qui font vraiment de la tech, c'est-à-dire pas la French Tech.
Si vous vous retrouviez seul à seul avec Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, que se passerait-il ?
Alors, je l'ai déjà rencontré il y a très longtemps dans une soirée en Californie. Et si je le voyais aujourd'hui, je sais pas si je lui mettrais pas une claque.
Qu'est-ce qu'il manque à VLC ?
Du contenu.
C'est prévu ?
Ouais.
On y reviendra plus tard. Fin 2018, vous avez été fait chevalier de l'Ordre National du Mérite. Qu'est-ce que ça fait d'être chevalier ?
Alors c'est nul, parce qu'on m'a pas donné ni de cheval, ni d'épée. Donc je suis hyper déçu, et sinon je fais ma remise lundi.
Et vous étiez un petit peu mal d'avoir reçu seul cette distinction, plutôt que votre équipe en fait.
C'est vrai que ce qui m'embête un peu, je suis pas mal, mais je suis un peu embêté, c'est que c'est une récompense en fait personnelle pour un travail d'équipe. C'est dommage.
Est-ce que ça vous a donné quelques entrées avec les responsables politiques français du moment, de la Startup Nation ?
Pas du tout.
Allez, entre nous, c'est possible d'acheter VLC ?
Alors, ça veut dire quoi, acheter VLC ?
D'acheter l'association, par exemple.
Donc, l'asso
la récupérer.
On peut pas. La seule chose que tu peux acheter, c'est le nom de domaine videolan.org, en fait. Parce qu'en fait, ce qui a beaucoup de valeur, c'est finalement maintenant la marque VLC et le site web. Donc, potentiellement, tu pourrais acheter ça. Ça veut pas dire que tu le fais, mais ça veut dire que potentiellement tu pourrais faire ça. Et par contre, comme le logiciel est libre, tu peux pas.
Dans une interview à Clubic, j'ai lu que vous aimeriez beaucoup faire des trucs spatiaux. Allô à Elon Musk ?
Ah ouais, quand il veut.
C'est quoi vos rapports avec les gens de Winamp?
On a essayé, quand Winamp s'est fait racheter il n'y a pas très longtemps, on a essayé de le racheter pour le rendre open source.
Ça coûtait trop cher?
Bah, je sais pas, ils m'ont jamais répondu. Mais oui, je pense que ça coûtait trop cher.
Merci Jean-Baptiste Kempf. Alors, quels conseils donneriez-vous à ceux qui nous écoutent et sont développeurs web ou applications?
Le conseil principal, c'est croyez en vous, parce qu'en fait, VLC, c'est un logiciel qui a été fait par des étudiants qui n'étaient pas plus intelligents que la plupart des étudiants, et ils ont montré comment un logiciel fait par des étudiants pouvait être un phénomène et un logiciel mondial utilisé par plein de gens. Il ne faut pas se cacher, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, avec du boulot, on peut y arriver. Croyez en vous et travaillez, et vous pouvez le faire.
D'ailleurs, vous, c'est pendant vos études que vous avez parfait votre savoir de développeur. Vous n'étiez pas un développeur qui a démarré à 14 ans, quoi.
Alors, pire que ça, en fait, moi, j'ai commencé à coder sur VLC en sortant de l'école centrale, parce qu'avant, je faisais plus d'autres choses sur VLC. Et donc, même dans mes études, j'ai quasiment pas programmé.
Quel conseil donneriez-vous aux parents qui nous écoutent et ont des enfants qui bidouillent des trucs sur leur ordinateur?
N'ayez pas peur. Alors je sais, c'est un peu dur, mais moi j'ai appris en bidouillant, en détruisant l'ordinateur de mes parents plusieurs fois, très tôt, et c'est en y touchant qu'on comprend. Et en particulier, aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui ne comprend pas l'informatique comme nous on l'a compris. C'est-à-dire que moi j'ai monté des ordinateurs, donc t'es obligé de comprendre vraiment ce qui se passe. Là, on arrive avec les digital natives qui ont le problème, c'est qu'en fait, le Wi-Fi marche pas, ben ils disent le Wi-Fi marche pas. Et ils veulent pas aller derrière pour comprendre, parce que c'est pas la question du moment. Donc en fait, il faut vraiment encourager le bidouillage.
Et donc ça passe par faire l'enseignement aussi, ça doit s'apprendre à l'école?
Non, ça s'apprend pas.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est la curiosité de chacun.
Ouais, c'est la curiosité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut apprendre à apprendre. Et ça, c'est la chose la plus importante pour les enfants et les étudiants. C'est apprendre à apprendre. Mais en fait, ça évolue tellement vite que à partir du moment où tu fais des enseignements, ils sont dépassés. Pareil, moi, je ne crois pas du tout aux cours de programmation informatique. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Il faut faire, en tout cas dans l'informatique, il faut avoir des bases théoriques importantes, qui sont comment ça marche un ordinateur, comment ça marche un réseau, comment ça marche Internet. Et ensuite, c'est bidouiller, faire des projets.
Donc ça veut dire se perdre sur YouTube, sur des blogs et devenir un maker, créer un petit ordinateur, un Raspberry Pi par exemple?
Tout à fait, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, dans les années 80, c'était hyper simple de comprendre tout ce qui se passait en informatique. Fin des années 90, ça commence à être vraiment difficile. À partir des années 2000, c'est impossible. Pour faire le moindre logiciel aujourd'hui, c'est des milliards de lignes de code qui sont rajoutées par des dépendants sur le noyau Linux, sur des distributions Linux. Et donc, c'est pas possible de tout comprendre. Donc, il faut essayer par des choses simples et il faut commencer par des trucs de maker.
Vous parliez tout à l'heure de l'idée peut-être de faire apparaître des contenus dans VLC. Expliquez-nous.
En fait, aujourd'hui, donc on voit que la bataille qui arrive, c'est une bataille de contenu. C'est-à-dire avec notamment Netflix, Disney+, et puis on va avoir un peu la même chose en France. Même si en France, on n'est quand même pas très bon là-dessus.
Donc de la vidéo, du son, voire du texte.
Des podcasts, des choses comme ça. Et en fait, les gens, à un moment, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc le temps que tu passes plus devant ta télé, tu le passes peut-être devant un jeu vidéo ou peut-être devant Netflix. Donc en fait, et tout le monde essaye de te récupérer ton temps et te mettre dans son portail, bien fermé. Netflix t'incite à rester chez Netflix et à ne faire que du Netflix. Mais en fait, c'est très dommage parce que ça restreint ton champ des possibles et d'idées, quoi. Utilise Netflix, c'est très bien, hein, mais il faut aussi regarder la télé, écouter de la radio, des podcasts, des choses différentes. Et aujourd'hui, tous les acteurs veulent en fait récupérer les utilisateurs et surtout pas qu'ils aillent voir ailleurs. Et moi, ce que je veux, c'est ce qui serait bien, c'est d'être capable d'aller justement ouvrir les contenus, c'est-à-dire de permettre d'accéder à tout.
Vous êtes pour le retour du lien hypertexte, en fait, tout simplement. On est en train de perdre d'une certaine façon.
Un peu, mais par exemple, vos confrères, ils sont peut-être vous aussi, hein, sont absolument catastrophiques. C'est-à-dire que chaque chaîne de télé veut avoir son application, des trucs qui sont plus ou moins utilisables d'ailleurs et qui crachent plus ou moins, dans lequel on veut avoir mes podcasts, même des groupes comme Radio France, ils ont plusieurs apps différentes où tout le monde se tire là. Et résultat, les gens, ils vont pas installer toutes les apps. Et quand on a des outils genre Molotov qui veulent agréger, on leur tire dedans parce qu'on surtout on veut pas. Donc pour moi c'est très dommageable. Et je vois pas pourquoi en France c'est difficile d'aller capter une télévision du Vietnam ou une chaîne de radio de Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun sens aujourd'hui, tout est numérisé. Il faut que les contenus, et notamment l'accès aux contenus, soient global.
Donc vous voudriez créer des contenus avec Vidéolan ?
Surtout pas, je suis très mauvais à c'est pas du tout mon métier, mais moi c'est vrai que j'aimerais bien avoir, par exemple dans VLC, une liste de chaînes de radio mondiales, et pas juste celles qui sont présentes chez toi.
Peercube, ça vous parle ?
Alors Peertube, ça nous parle. On est justement en train de regarder comment on fait pour avoir une intégration de Peertube dans la prochaine version de VLC.
Vous avez cité Netflix et d'autres grosses entreprises comme ça. Y a-t-il des entreprises ou des services ou des logiciels qui sont pour vous frères ou sœurs de VLC ?
Il y en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de logiciels open source, mais il y en a de moins en moins pour les gens normaux, quoi. C'est-à-dire que maintenant, l'open source, c'est très business, c'est très du serveur, mais c'est rarement dans les mains d'utilisateurs. Les autres logiciels open source qui sont encore open source, c'est Firefox,
le navigateur
Internet et LibreOffice. Mais Firefox, c'est passé de 30% de part de marché à maintenant 5%, et ça va continuer de descendre. Et LibreOffice, c'est maintenant anecdotique, quasiment, tristement. Donc c'est très difficile, on sent un peu tout seul, ouais.
Et le moteur de recherche français, Quant, qu'en pensez-vous ? It's complicated.
Alors, Quant, c'est une bonne idée. Je ne suis pas sûr que l'exécution soit parfaite. Et je pense qu'ils sont pas assez techniques. Donc, d'ailleurs, à un moment, ils cherchaient un nouveau PDG. Donc, j'ai essayé d'envoyer ma candidature en leur disant, vous savez... Google, ça a commencé parce que le PDG était techos, quoi. Et pour faire un bon... Moi, je crois au bon produit. Et VLC, c'est l'exemple d'un bon produit. Il faut faire des bons produits. Et donc, ça commence, dans les cas d'un moteur de recherche, par une excellente technologie. Et ça devrait être le focus. Et quand on a vu un peu les affaires autour de Quant, c'était pas vraiment le cas. Mais par contre, c'est une très bonne idée.
Et quand on voit que Quant, donc le moteur de recherche qui ne veut pas tracer les internautes, se rapproche de Microsoft, par exemple, pour utiliser ses serveurs cloud, pourquoi est-ce que c'est quelque chose que VLC, par exemple, n'a jamais fait ?
Alors, il y a deux raisons. Déjà, la première chose qu'ils font, c'est juste qu'ils louent des machines. On a entendu beaucoup d'âneries sur cette histoire de Microsoft. C'est pas très problématique ce qu'ils font. C'est pas très intelligent. Il y a un truc qui s'appelle OVH en France. Ils auraient très bien pu utiliser OVH. Ou Scaleway d'ailleurs, qui est aussi français. Mais donc, c'est pas très gênant ce qu'ils font. Malgré tout, nous, on n'en a pas besoin parce que comme j'ai pas de données utilisateurs, j'ai quasiment rien sur mes serveurs. Donc VLC, il y a trois serveurs qui font tout le boulot et il n'y en a pas besoin. Il y en a un, c'est juste le site web.
C'est pour quand la prochaine version de VLC ?
Quand c'est prêt.
C'est-à-dire ?
C'est très compliqué en fait, la prochaine version de VLC, on est justement en train de réfléchir à comment on intègre du contenu, notamment des chaînes de radio, des chaînes de télé, des podcasts dans VLC. Ça demande un changement d'interface. Ça serait bien juin.
Et justement, quand vous voyez, donc là, ça sous-entend des flux RSS et compagnie, quand vous voyez des entreprises, y compris françaises, par exemple, on peut citer Radio France, qui réfléchit peut-être à couper ces flux RSS, ou en tout cas d'avoir des deals pour que les médias ou des plateformes puissent récupérer le flux RSS, et qui a envie, encore une fois, de rassembler les utilisateurs sur sa propre application Radio France. Ça vous inquiète, ce genre d'approche ?
Surtout, c'est débile. C'est-à-dire que tous les médias dont le but est de limiter leur nombre d'utilisateurs, c'est vraiment des idiots totales, quoi. Tu peux pas le dire différemment. Ton but, c'est que ton contenu soit vu mondialement. Jamais quand t'es, que tu sois Radio France, France Télé ou M6 qui veut pas, non, je veux pas qu'on puisse regarder mon flux sur la Freebox. Vous êtes cons, quoi. Enfin, c'est des gens qui se battent pour éviter d'avoir des utilisateurs. Mais vous êtes fous? Qu'est-ce qui vous prend? Toi, en tant que média, surtout ton business model, c'est de la pub qui est en fait dans le flux. Donc, vas-y. T'as qu'une seule envie, c'est d'avoir. La seule chose que tu peux demander, c'est des métriques, parce que c'est comme ça que que fonctionne en fait ta publicité, qui va dire, moi j'ai besoin de métriques. Donc, ils disent, OK, mais en fait, faut utiliser ce flux comme ça, parce qu'en l'utilisant, nous, on aura des métriques. Ça, je comprends très bien. C'est logique. Mais vouloir bloquer, c'est d'un n'importe quoi total.
C'est pour ça qu'RFI est un mass média et que l'on diffuse pour l'instant encore très largement au plus grand nombre. Y a-t-il quelque chose dont on n'a pas parlé, qu'il aurait été bien d'aborder, Jean-Baptiste Kempf?
Non, je pense qu'on a couvert le principal. Ce qui est important dans VLC, c'est que c'est libre, on vous espionne pas, et surtout ça va dans l'idée d'être au service des utilisateurs et de la diffusion du savoir mondialement.
Pour télécharger VLC, rendez-vous sur videolan.org. Merci beaucoup Jean-Baptiste Kempf d'être venu dans l'atelier des médias de RFI, et à bientôt.
À bientôt.
atelier@rfi.fr.
C'est bientôt la fin de cette émission et j'ai une annonce à vous faire. Et pour ça, Camille Deloche me rejoint en studio. Salut Camille.
Salut Steven.
Ceux qui nous écoutent ont sans doute déjà entendu parler de Mondoblog, la plateforme de blogueurs francophones de RFI, fièrement portée par l'Atelier des médias. Et bonne nouvelle, on ouvre un concours pour permettre à des dizaines de nouveaux contributeurs de nous rejoindre. Comment ça marche, Camille?
C'est très simple. Pour rejoindre la communauté Mondoblog, tout se passe en ligne. Vous vous connectez sur le site concours.mondoblog.org, vous remplissez un formulaire de candidature et ensuite vous envoyez une production de votre choix.
Alors quel type de production justement ?
Ça peut être une production écrite, un billet de blog classique, mais ça peut être aussi de la photo, de la vidéo, du dessin ou encore de l'audio. L'expression est totalement libre.
Et comment va-t-on choisir quelques dizaines donc de candidats parmi les centaines de candidatures qui nous seront parvenues ?
Alors bien sûr, il faut soigner sa production. Attention à l'orthographe, à la syntaxe, à la qualité de la narration. Un récit, ça se construit. Sinon, vous perdez le lecteur en route.
Évidemment. On va aussi regarder la présence en ligne de ces candidats, regarder la façon dont ils interagissent avec leur communauté, par exemple sur Facebook, sur Twitter. Bref, voir comment ils se comportent à l'ère numérique.
Exactement. Donc, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, si vous avez une chaîne YouTube, vraiment, mettez-le en avant et montrez qui vous êtes.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces candidats, ensuite ceux que l'on aura sélectionnés, on va leur ouvrir un blog sur lequel ils pourront poster leurs productions. Ces productions, on pourra les partager ensuite sur mondoblog.org, donc sur le site mère, et puis on les partagera aussi sur les réseaux sociaux de RFI, sur Facebook, sur Twitter, etc. Jusqu'à quand est ouvert ce concours ?
C'est à partir d'aujourd'hui, 1er février, et ça dure un mois, donc jusqu'au 1er mars.
Merci beaucoup Camille, rendez-vous donc sur concours.mondoblog.org, et on salue Louise Guibert et Colin Gruel qui accompagnent la joyeuse communauté de plus de 750 blogueurs déjà présents sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission. Simon Decreuse était comme chaque semaine à la réalisation. Je m'appelle Steven Jambot et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. D'ici là, retrouvez en podcast l'Atelier des médias.